Sud.
Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde. Ça allait bien, ma vie allait bien. J'avais passé un super beau week-end. Faisait beau, j'ai passé du temps en famille. J'avais mangé chez des amis samedi soir. On a bien bu, on a bien mangé. Je me suis réveillée ce matin, j'étais de bonne humeur. J'ai pris une bonne douche, j'ai pris un bon café. Ma vie était belle. Jusqu'à temps que je lise le Journal de Montréal et le Journal de Québec et que je vois la une. Ça se passe en anglais dans nos écoles aussi. Là, ma tante Sophie, ma tante Loi 101, t'as un petit peu moins de bonne humeur. Hein, le petit rayon de soleil que j'avais dans la voix et dans les yeux avait un tantinet disparu. Je sais pas si vous avez lu ce dossier-là. Si vous ne l'avez pas lu, courez lire ça tout de suite. C'est profondément déprimant. Et en lisant ça, parce que c'est ça la réalité, des jeunes francophones qui parlent en anglais quasi systématiquement dans les écoles françaises au Québec. C'est tellement déprimant et j'ai vraiment eu une pensée pour tous les gens, les hommes et les femmes qui se sont battus pendant des années au Québec pour qu'on ait le droit de vivre en français, pour célébrer la beauté de la langue française, pour chanter les beautés, les ravissements du français. Tout ça pour en arriver à un jeune qui déclare dans le Journal de Montréal à ma collègue Daphné Dion-Vien qu'il trouve ça tout simplement plus facile de parler anglais parce qu'il y a moins d'accords avec les adjectifs et de conjugaisons à faire. Puis il n'y en a pas un seul, là. Ils sont plusieurs à avoir dit ça à Daphné. Je suis... Ben oui, c'est quasiment une petite larme que j'ai ici au coin de l'œil. Mais où est-ce qu'on s'est trompé? Ma génération, la génération d'avant, la génération de Camille Lorrain, les enfants de la loi 101, comment ça se fait qu'on a erré à ce point-là, qu'on n'a pas réussi à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos neveux, à nos nièces, à nos cousins, à nos cousines, qu'on n'a pas réussi à leur transmettre cet amour-là de la langue française? Et j'irais même plus, cette fierté-là. Comment ça se fait qu'on a accouché de petits moutons serviles qui s'écrasent, en tout respect, devant le rouleau compresseur de l'anglais? C'est plus facile en anglais. Le français, c'est trop compliqué parce qu'il faut conjuguer ça. Ben oui, c'est plus facile en anglais. T'as pas de féminin puis de masculin. T'as pas obligé de te demander la table, est-ce que c'est féminin ou masculin. T'as juste à dire table puis t'as pas besoin de dire la table et remiser. Ah, faut mettre un E à remiser parce que la table, c'est féminin. Hey, c'est bien compliqué. C'est vraiment une raison pour se mettre à parler en anglais alors que notre langue maternelle, c'est le français. Je suis complètement découragée. Je pense que ça va me prendre quelques semaines pour m'en remettre. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on amorce une réflexion quand c'est rendu que des francophones qui étudient dans des écoles françaises, se parlent entre eux en anglais. Pourquoi on continue à se battre? Pourquoi? Moi, dans ma chronique du journal de ce matin, je parle du fait qu'à mon cours de yoga, je me suis plainte que la prof donnait trop d'indications en anglais. Pourquoi je me bats, moi, si la génération suivante puis les générations qui suivent, ils s'en foutent, ils s'en torchent, ils s'en contrefichent complètement? Pourquoi on a juste acheté la serviette, puis on va tous se parler en anglais? Si c'est ça que les jeunes veulent, c'est notre avenir. Si notre avenir, les gens qui représentent notre avenir ne veulent pas d'un Québec français, ben qu'on le dise tout de suite, on va mettre la clé dans la porte, puis on va tous aller vivre à Toronto. Où on va tous se parler in English. Ça va plus être Cube Radio, ça va être Cube Radio. Hello, good evening, good afternoon. You know, my name is Sophie Durocher. Parce que moi, j'ai un ancêtre célèbre aux États-Unis, Leo Durocher. Il jouait au baseball, je pense. Ah oui, Sophie Durocher, welcome to Cube Radio. C'est très déprimant.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Alors, mon prochain invité a vécu rien de moins qu'un cauchemar. Vraiment un cauchemar. C'est un survivant de la bactérie mangeuse de chair. Vous savez, cette bactérie qui a attaqué il y a quelques années de ça, Lucien Bouchard. Ben lui a été vraiment attaqué par la bactérie mangeuse de chair. Pas plus tard qu'au mois de mars de cette année, il s'appelle Pierre-Luc Côté. Il nous fait la gentillesse de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Côté.
Bonjour, Madame Durocher.
Ben d'abord, je vais commencer par vous demander comment allez-vous au jour d'aujourd'hui, là, 22 ou 21 avril?
Relativement bien, on va dire que j'ai toujours ma jambe. J'ai réussi à marcher avec une canne, fait que ça va quand même bien. J'aurais pas dit ça là, une semaine ou deux où ce que j'étais ces antibiotiques et que ça filait pas fort, mais là, présentement, ça va bien.
Ça va bien. Donc, quand on dit que vous êtes un survivant, c'est que vous êtes vraiment pas assez proche. Vous auriez pu y laisser votre peau, vous auriez pu mourir. On va commencer par le début, Monsieur Côté. Comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là, qu'il y avait quelque chose de croche dans votre corps?
J'avais mal dans le dedans de la cuisse. Le jeudi soir, je me suis couché, puis je me suis dit, ben, ça va passer demain matin, on va être correct. Et le lendemain matin, j'avais les signes d'une gastro. Ça avait juste pas de bon sens, j'étais même pas capable de me tenir debout. Fait que j'ai réussi à communiquer avec mon beau-frère pour qu'il vienne de me porter à l'hôpital. Tout simplement, j'étais plus capable de me tenir debout. Puis au triage, ils m'ont passé très très vite là. C'est impressionnant à quel point ils m'ont pris rapidement en charge.
Donc au triage, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de grave. À quel moment on a pu identifier que ce que vous aviez...
En me voyant, le gars, il m'a dit, je t'envoie tout de suite dans la salle numéro 1 au triage, je m'en viens te voir tout de suite.
Wow!
Il me fait baisser mon pantalon, il regarde ça, j'avais l'air de mort en vie, là, j'étais gris, j'avais de la misère à me tenir debout. Il regarde ça, puis il fait, oh, c'est une nécrose, puis là, il fait salle 19 tout de suite, les médecins s'en viennent, puis c'est quoi qui se passe, là, t'sais? J'ai vraiment de la misère à allumer, c'est quoi qui se passe. Fait que le médecin, il vient me voir, puis il fait « C'est une bactérie mangeuse de chair que t'as là, mon cher, ça se fait comme de type A invasif, il faut qu'on trouve la porte d'entrée, puis là, c'est quoi qui se passe? » Je lui montre, je fais un peu d'eczéma sur la jambe, il me dit « C'est sûrement parce que tu t'es gratté, ça rentrait par là.
Ah! »«
D'accord, c'est quoi qui se passe? » Je m'en vais au bloc opératoire, dans les 3 heures qui suivent, là. Je suis rentré, puis ils m'ont passé tout de suite au bloc opératoire.
Wow!
Je me réveille aux soins intensifs. J'ai une plaque noire sur le dessus de la jambe avec un tuyau. Ils me disent que c'est un VAC, que c'est fait pour enlever le mauvais dans ma jambe. Ça siphonne. Puis qu'il a enlevé une bonne partie de mon quadriceps. Puis que j'ai une bonne plaque de chair de partie sur le dessus de la jambe. Donc.
Comment vous réagissez, Monsieur Côté, quand vous apprenez ça, en vous réveillant que vous réalisez pas?
Non, je réalise vraiment pas. Moi, la seule affaire que j'ai dans ma tête, c'est une bactérie mangeuse de chair. Au pire, ils me couperont la jambe. C'est la seule chose que je peux me dire, c'est qu'ils me couperont la jambe.
Donc là, finalement, c'est un petit peu un moindre mal dans le sens que vous pensiez perdre votre jambe. Donc, ben, c'est une grande partie quand même de votre jambe qui a disparu. Et là, pendant les heures qui suivent, si je comprends bien... Là, vous ne savez pas si la bactérie va se propager. Donc, pendant 8 heures, vous êtes vraiment en train de vivre un cauchemar. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
Pendant ces 8 heures-là, ben, j'ai essayé de m'occuper l'esprit au maximum. impossible de dormir. Vous êtes sur un lit, je sais pas si vous connaissez les lits de soins intensifs, là, qui respirent puis qui se promènent tout le temps pour pas avoir de plaies de lit. J'ai la pompe qui me pompe la jambe, puis que je suis comme, je reviens juste pas de ce qui se passe, puis je me dis juste, bon ben, je vais revoir mes 2 enfants. C'est la seule chose à laquelle je pensais. Il me disait, tu sais, on se voit demain matin, puis on te repasse au bloc opératoire, puis j'étais comme, bon ben, au pire, coupe, parce que je veux voir mes flots. Je me fous bien. Puis allez, je marcherai avec une béquille. C'est ça.
Mm.
Le plus dur là-dedans, c'est ça. C'est de savoir que t'as deux petits gars à la maison puis que toi, t'es impuissant devant ce qui se passe.
Je comprends. Ils ont quel âge, vos enfants, Monsieur Côté?
Un qui bientôt 5 ans et l'autre 22 mois.
Ouh, c'est petit, c'est tout petit, ça, 22 mois. Donc, pendant ces 8 heures-là, où vous êtes dans l'incertitude, c'est comme un phare dans la nuit. Vous vous dites, bon, mes enfants, il faut que je sois là pour mes enfants. Et finalement, on a réussi.
Pendant ces 8 heures-là, je ne voulais pas le dire. Tu sais. Je ne voulais pas que les gens s'inquiètent plus qu'il faut. Au pire du pire, ils auront un corps. Je me dis, ça aurait été ça. Mais... c'est eux autres, oui. C'est carrément eux autres qui m'ont fait garder le cap.
Finalement. Ah, j'adore cette histoire. C'est extrêmement touchant. Puis, c'est beau de voir l'amour d'un père pour ses enfants, puis que ça vous ait maintenu en vie de cette façon-là. Vous avez 38 ans, c'est tout jeune, donc votre plus jeune, il a 22 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, maintenant, vous êtes de retour à la maison. Comment ça se passe? Parce que là, vous pouvez pas faire grand-chose, vous êtes quand même immobilisé à cause de votre...
Je me sens comme un poids un peu pas mal pour ma femme. Tu sais, première des choses, ben là, j'ai plus d'argent qui rentre. Ça, c'est une des grosses affaires.
Vous travaillez en esthétique automobile, c'est ça? Puis vous pouvez pas recommencer le travail tout de suite, évidemment.
Bon, je suis travailleur autonome, donc j'avais pas pris d'assurance comme un beau tata, fait que je me suis retrouvé, ben là, j'ai le nez à l'eau un peu. Ouais. Je vis sur les économies que j'avais. Mes enfants, ben, c'est que je suis un gars qui s'occupe beaucoup de mes enfants, les repas, les lavages, je joue beaucoup avec eux autres, là, ben, je suis même plus capable de prendre le tout petit. Et c'est un peu trop dur sur moi, il n'y a pas de position pour l'installer, je suis ouvert du bas du genou jusqu'en haut de la hanche.
Ouais.
Fait que, il n'y a pas de position, je peux pas le mettre sur moi.
Je comprends.
C'est un petit peu compliqué. Et c'est ça. Le petit jeune, lui, il comprend pas. Papa, il me prend pas. Papa, c'est dur un peu.
Ouais, je comprends. Mais il y a une chose qui me frappe, Monsieur Côté. Premièrement, ce qui me frappe, c'est évidemment votre courage face à l'adversité. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que vous êtes un homme souriant. On voit une photo là de vos deux petits. Vous arrivez quand même à garder le sourire. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous arriviez à garder le sourire puis à garder quand même une attitude positive à travers tout ça?
C'est que on regarde le pire tout le temps au début. Puis je me suis mis au pire du pire. Qu'est-ce qui pouvait arriver, c'était que je ressorte de l'hôpital dans une boîte. Puis je me disais, ben regarde, t'es encore pas pire. Si t'es debout, t'es encore là. Fait que tu vas être là pour tes gars, tu vas être là pour ta femme, tu vas être capable de continuer. Tu sais, c'est juste un petit obstacle, la vie est remplie de problèmes, tu sais. Je peux passer par-dessus ça.
C'est un message important que vous livrez aujourd'hui, Monsieur Côté. Puis l'autre message, évidemment, c'est que c'est important d'aller consulter dès qu'on se sent pas bien. Parce que si vous aviez minimisé ça en disant « bah c'est juste une gastro », ben vous seriez peut-être pas là aujourd'hui pour me parler.
4 heures de plus, je perdais la jambe. 8 heures de plus, sûrement la vie.
Incroyable. Merci beaucoup, Monsieur Côté. Puis... vraiment bon courage. Et puis, écoutez, la vie vous a envoyé cet obstacle-là, mais je vois que vous gardez quand même un esprit positif. Alors, bon courage à vous et à votre famille. Et vous avez deux enfants absolument craquants. Donc, je comprends tout à fait que ce soit ça qui vous ait donné le goût de continuer puis de vous accrocher. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Pierre-Luc Côté, survivant de la bactérie mangeuse de chair. Merci beaucoup.
Merci.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure.
Bon, vous connaissez peut-être mon grand amour pour les journées mondiales de ceci puis les journées mondiales de cela. Ça a l'air, je le sais pas. C'est aujourd'hui, ça? Un jour de la Terre, c'est aujourd'hui, ça? On va parler de ça avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
Oh, je réalise que j'ai pas envoyé le bon sujet pour te faire plaisir aujourd'hui.
Non, mais c'est marqué jour de la Terre. C'est pas ça,
oui,
c'est pas ça que tu nous parles. Ah,
c'est
OK, c'est aujourd'hui. Ah, OK.
Oui. Très touchante ton entrevue en passant.
Ah, merci.
C'est beau de voir, mais beau et triste à la fois de voir son intégrité, son il dit les choses comme elles sont. Là. Je me sens comme un boulet pour ma femme. Ça vient
frapper chercher,
n'importe
quel
homme qui écoute ça présentement. Si vous ne l'avez pas entendu, parce que je sais que tout est un balado à cube, donc retournez, regardez ça.
Ouais.
Oui, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, Sophie. Puis je sais que ces journées-là, ça sert souvent juste une journée, malheureusement. Mm-hmm. On en parle pendant une journée, puis après ça, on n'en parle plus. Mais je me suis quand même dit que c'est tellement important de parler de la Terre que je vais quand même prendre mon 8 minutes avec toi aujourd'hui pour parler de cette journée-là.
Rendons hommage à Gaïa aujourd'hui, la déesse de la Terre.
Ben oui, mais rendons pas hommage à monsieur, madame, tout le monde. Parce que moi, je suis d'avis, là aujourd'hui, là, on entend plein de commentaires, puis on lit plein de commentaires, puis qu'on n'a pas encore assez peur, que c'est pas vrai qu'on prend soin de la planète, tu sais. Puis là, il y a plein de gens qui, tu sais, tu jases avec les gens, tu sais, oui, je pense que je suis pas mal écologique, là, j'ai mon bac à compost, puis j'ai mon recyclage, puis je vais porter mes canettes vides. Bon, c'est super, mais c'est pas avec ça qu'on va sauver la Terre. On s'entend, là, tu sais. Bon, puis là, on pourrait partir sur les grosses compagnies et tout ça, mais monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas tant peur, on dirait, que cette Terre-là explose. On n'en prend pas soin tant que ça. Puis si, moi, ma façon de penser, c'est de dire, si demain, là, il y avait monsieur ou madame inspecteur de la Terre qui passait chez nous puis qui disait, parfait, toi, ce que tu vas faire dans ta vie. Prenons mon exemple à moi. Toi, là, moi, je fais beaucoup de route. Ma belle famille vient du Nouveau-Brunswick.
Ben oui.
Fait que je fais beaucoup de route. Mon gars joue au hockey.
Ben oui.
Il joue à Val-d'Or. De la route par là-bas. Je pollue énormément en voiture à chaque année. Mais tu sais. Fait que là, s'il me disait, tu veux vraiment être écologique, parfait, on va couper tac, 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 de voyage, mettons, dans ta vie. Ça, ce serait. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ce genre de sacrifice-là? Tu sais, on connaît tous des gens qui ont deux maisons puis trois maisons, là, leur maison principale. Un chalet, un condo en Floride, quand tu y penses, ils ont trois domiciles là, qui sont chauffés, ces domiciles-là, est-ce qu'on est vraiment prêt à faire des sacrifices? Les gens qui font de la motoneige, qui font du bateau, mais là, je parle pas des bateaux qui nous amènent la nourriture puis nos biens de consommation, tout ça, là. Je parle de la plaisance.
Du loisir, oui, c'est ça, de la
du
plaisance.
Du loisir,
ouais.
Moi, j'adore l'eau, mais en même temps, plouf, 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 on pollue, le moteur, on pollue dans l'eau. Est-ce qu'on est prêt à faire ce genre de sacrifice-là, de dire vraiment, je coupe dans ce que j'aime, là, pour... Mais je pense que non. Je pense qu'on n'est pas rendu là.
Écoute, je ne sais que te dire, parce que je suis vraiment partagée entre je suis consciente, puis je ne suis pas du tout une climato-sceptique, aucunement. Je suis tout à fait consciente de ça. Ce qui me chicote toujours, c'est un mot que tu as utilisé au début en disant on n'a pas assez peur. Quand on fait des campagnes de peur, ça me tombe un tout petit peu sur les rognons. Quand j'entends parler des jeunes qui souffrent de d'éco-anxiété, etc., etc. Quand on nous prend par la peur, c'est pas ça qui vient me chercher. Par contre, je suis d'accord avec toi que on doit collectivement se poser des questions. Mais tu sais, je t'ai déjà donné l'exemple. Tu sais, toi, tu dis ta famille vient du Nouveau-Brunswick. Moi, c'était la mort de ma mère récemment. Ben, tous les enfants et petits-enfants ont pris un avion de là où ils étaient. Bon, il y en a eu un qui venait de San Francisco, il y en a une qui venait de Vancouver, il y en avait une qui venait de Toronto, il y en a une qui venait de New York, il y en avait une qui venait de Copenhague, puis il y en a 4-5 qui venaient de Paris. Pour être écologique, il aurait fallu qu'on fasse quoi? Qu'on dise à ma mère, tu vas mourir toute seule dans ton lit, dans ta chambre, puis c'est parce que c'est pas bien pour la planète de polluer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est le principe. Pour résumer, je suis d'accord sur le principe. On voyage trop, on pollue trop, etc. Mais concrètement, dans le quotidien, là, c'est qui la première personne qui va dire, ben, je vais laisser ma mère crever toute seule chez elle parce que prendre l'avion, c'est pas bon pour la planète? C'est ça la question que je pose.
Mais je suis d'accord avec toi. Puis là, ouais. ça c'est le côté extrême. Mais mettons, s'il te disait, bon, ben ça, c'est correct, c'est les funérailles, vas-y. Mm. Mais après ça, je sais, mettons, t'aimes bien faire ton voyage dans le sud dans le temps des fêtes, tu vas sauter celle-là, vu que t'as pris l'avion pour aller aux funérailles. Tu comprends? Mm. Ça, ce serait de réels sacrifices. Puis je sais qu'on n'arrivera pas là, là parce que c'est ce que je dis, on n'est pas prêt à le faire. On n'est même pas prêt à se priver de mangue. Ou d'avocat. Non, mais.
Tellement vrai! Tellement vrai! Tout ce que tu dis est vrai, Jean-François.
Pardon?
Tout ce que tu dis est vrai.
Je ne suis pas en train de dire non plus qu'on. Je voudrais qu'on m'interdise toute visite dans ma belle famille ou d'aller voir mon garçon, mais si on disait, tu coupes en deux. Choisis, là, au lieu d'aller le faire 8 fois, tu vas, tu sais, ça va être 4.
Moi, j'aimerais mieux que ce soit le voisin qui coupe en deux. Moi, j'ai pas le goût de couper en deux, comprends-tu?
mais c'est exactement ça. Je pense qu'on n'a pas. Mais on se fait à croire. Tu sais, comme là, la mode est aux autos électriques. Ah, mais là, je suis rendu écologique. Là, j'ai 2 autos électriques dans le cours. Mais déjà, t'en as 2. T'en as-tu besoin de 2? On part avec ça. Puis là, oui, ton auto électrique, là, c'est le gros modèle à 85 000 avec les pneus larges de même. Puis, tu sais, l'équipe. Tu fais. L'auto électrique, elle a beau être électrique, c'est mieux que celle à essence, mais elle a quand même une empreinte écologique. Fait que quand on va. Mon point, c'est que quand on va vraiment penser qu'on est plus écologique, ça va être des sacrifices qui viennent toucher notre quotidien. À prendre mon petit bac brun puis aller le porter dehors, puis après ça, le mettre au chemin, puis rentrer en faisant tabarnouche, que je suis rendu vert. Moi, j'ai mis mes autres poulets dans un endroit où est-ce que ça va se décomposer.
Oui, mais c'est quand même mieux que ceux qui le font pas.
C'est mieux, c'est sûr.
Puis, donc, c'est quand même mieux que. Je veux dire. Je sais pas. Il y a aussi tout le débat qu'on pourrait discuter aujourd'hui, mais qu'on peut discuter aussi une autre journée. Est-ce qu'on a raison de constamment taper, je dis pas que c'est ce que tu fais du tout, mais est-ce qu'on a raison de constamment taper sur le citoyen et que pendant ce temps-là, on tape pas sur les grosses entreprises qui sont 10 milliards de fois plus polluantes que l'individu, ou alors est-ce qu'on tape sur certains pays et pas sur d'autres? Je pense qu'il faut peut-être aussi se poser cette question-là avant de culpabiliser monsieur et madame tout le monde qui, bon, ben, fait ce qu'il peut dans la mesure de son possible et que pendant ce temps-là, c'est comme on s'intéresse à une petite paille, puis pendant ce temps-là, on a une poutre en plein milieu du visage qui est les entreprises et.
Mais tout ça, on devrait mieux régir. Ouais. Mais à partir du moment où on se dirait, là, mettons, comme là, la saison du golf est arrivée, là, on garde tous nos bâtons de golf cette année. On n'aura pas besoin de régir les grandes compagnies qui produisent de l'aluminium et tout ça. On ne les changera pas, nos bâtons, donc ils n'en feront pas.
J'espère qu'on ne les changera pas. Il y a des gens qui changent de bâton monsieur. Chaque année?
Bon, y a pas mal de monde. Je vais m'acheter un nouveau bois. Les magasins sont pleins, puis à chaque année, ils vident leur plancher. Ça veut dire que ça se retrouve quelque part, ces bâtons-là. Mm. Fait que ça part quand même de monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Le jour où on dit cette année, là, on s'achète toutes pas de vêtements, parce qu'on sait à quel point l'industrie du textile, ça pollue. On n'aura pas besoin de taper ses doigts des grandes entreprises qui produisent des vêtements. Ils n'en vendront pas.
Ouais, t'as raison.
Fait que ça part quand même un peu de nous. Puis moi le premier, là, je suis pas mieux que les autres. Quand ça vient à notre sacrifice, c'est pas mal plus difficile de
sacrifice, comme dirait l'autre.
C'est plus tough.
Ouais. Sacrifice que c'est difficile de faire des sacrifices. Merci beaucoup, Jean-François Barry.
Puis le jour de la terre, c'est aujourd'hui, mais tous les autres jours aussi. Là.
Ah ouais. Ah, c'est aujourd'hui.
Ouais. Oh, ouais. Okay. Je voulais juste le souligner. Je vais me faire un plaisir chaque matin d'aller voir c'est la journée de quoi aujourd'hui.
Ah, OK.
Juste pour te le proposer
J'ai
dans mes
sujets.
J'ai
tellement hâte à demain. C'est peut-être la journée de la betterave, on ne sait pas.
Oh,
hey, merci beaucoup,
betterave.
Jean-François. Hey, mon Dieu, que dire de l'asperge? Merci beaucoup, Jean-François.
Salut.
Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Eddie.
Sophie Durocher.
Dans la vie, c'est très important de conserver sa masse musculaire. Mais comment faire pour conserver sa masse musculaire? La réponse avec Isabelle Huot. Bonjour Isabelle.
Allô Sophie. Ben écoute, toi et moi, on a déjà perdu à peu près 5 livres de masse musculaire là, depuis l'âge de 30 ans. C'est fou quand même. Hein?
Moi, je t'aime quand tu m'annonces des bonnes nouvelles. Je t'aime moins quand tu m'annonces des mauvaises nouvelles. Parce que je suis sûre que ça va pas aller en s'améliorant cette affaire-là. Ça va juste empirer.
Mais il y a des façons de préserver au maximum là, sa masse musculaire. C'est quand même une des premières causes d'invalidité chez la personne âgée. Wow. Je pense à mon père qui est décédé maintenant, mais qui avait vraiment eu une fonte musculaire très, très, très importante. Ça vient souvent avec une malnutrition. On sait qu'en vieillissant, on a moins d'appétit, on mange moins, on mange pas suffisamment de protéines, on ne comble pas ses besoins nutritionnels. Mmh. On perd des muscles, puis on perd de la force musculaire, puis on s'expose à des chutes et puis à une perte de qualité de vie de façon significative. Là.
Donc, c'est extrêmement important de nous alerter à ça. Donc, ce matin, dans le journal de Montréal, Journal de Québec, tu nous proposes tes astuces nutritionnelles pour préserver sa masse musculaire. Je t'annonce que c'est un article qui est très lu, donc il y a manifestement beaucoup d'intérêt pour ces questions-là. Numéro un, tu dis adopter une alimentation saine. C'est pas un peu une évidence dans le sens que on revient toujours aux bases, hein, Isabelle, l'alimentation méditerranéenne, pas trop
c'est
de viande.
C'est encore ça. C'est encore le régime méditerranéen qui l'emporte. On a étudié chez des personnes vieillissantes et cette approche-là qui permet de combler vraiment les besoins nutritionnels en vitamines, en minéraux, parce qu'on pense fonte musculaire, on pense nécessairement à protéines, mais c'est plus que ça. C'est vraiment la contribution des vitamines, des minéraux. Et ce régime-là, j'en parle depuis le temps qu'on a des chroniques ensemble, j'en parle tout le temps du régime méditerranéen. Il permet de combler nos besoins en vitamines, en minéraux. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de manger pour plein de raisons, on l'a dit, pour diminuer les risques de maladies chroniques, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Mais maintenant, on sait que d'après les enquêtes populationnelles, ben, les gens qui adhèrent à cette approche alimentaire-là conservent mieux leur masse musculaire. C'est sûr que on se le cache pas, on va quand même avoir une fonte musculaire au même poids. Moi, je vois souvent des gens au même poids. Par exemple, une personne de 70 ans qui a le même poids qu'à 30 ans, mais c'est clair que, par exemple, sur un 150 livres de même poids, il va avoir quand même plus de masse adipeuse versus masse musculaire comparant à l'âge de 30 ans. Là. Mais le régime méditerranéen,
un muscle. Puis on le sait que le muscle pèse plus lourd que le gras. Oui. Donc, c'est pour ça que quand on commence à s'entraîner, des fois, on se dit, ah, ben là, comment ça se fait? Tu regardes la balance, puis ça augmente, mais ça augmente parce que t'as plus de muscles que de gras. Donc, c'est une bonne nouvelle qui a l'air d'une mauvaise nouvelle. En fait, ce que je retiens, là, c'est essentiellement protéines, calcium. Pour quelqu'un qui serait, mettons, végétarien ou même végétalien, les sources de calcium sont peut-être plus réduites. Qu'est-ce que t'as comme suggestion pour quelqu'un qui prend aucun produit laitier, par exemple?
Bon, ben les boissons végétales, ça c'est certain que les boissons végétales enrichies en calcium, vitamine D, c'est un must. La boisson de soya, c'est la meilleure parce qu'elle est plus protéinée. Mais quand on regarde les études, quel impact des différents types de protéines sur la masse musculaire, on s'est rendu compte que la protéine laitière permettait une meilleure synthèse protéique. Donc, quand je pense, par exemple, les gens qui vont en masse prendre, qui veulent prendre la masse musculaire au gym, qui prennent un shake après un lait frappé, ben le lait frappé à base de petit lait, ben il va avoir vraiment une meilleure synthèse protéique qu'un lait frappé végétal, par exemple, à base de protéines de pois ou à base de protéines de soya. Fait que ça, il y a vraiment des études récentes qui ont démontré ça. Ceci dit, le soya reste quand même une meilleure alternative qu'une boisson d'amande ou une boisson d'avoine là qui a très, très peu de protéines. Fait que en vieillissant, il faut prendre 1 g à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Puis ça se fait bien. On essaie d'avoir à peu près 20 g de protéines à chaque repas. Fait que là, j'ai fait des exemples concrets. Exemple, le matin, si je prends une tasse de céréales de blé entier, puis je prends une tasse de lait, bien, du vrai lait va avoir 9 g de protéines. Mais mon déjeuner n'apporte pas encore assez de protéines. Je dois ajouter un quart de tasse d'amandes qui, elles, vont amener 8 g de protéines. Si je prends 2 toasts, ben une seule cuillère à soupe de beurre d'arachide, ce n'est pas suffisant pour aller chercher assez de protéines. Je dois prendre 2 cuillères à soupe et aller chercher un pain qui apporte un petit peu plus de protéines. Si je veux prendre, par exemple, un gruyot du lendemain, ben là, mon flocon d'avoine, ma boisson de soya, je rajoute quand même du yogourt grec. Donc, un tiers de boisson de soya, un tiers de yogourt grec. et de la graine de chia pour aller chercher mes protéines. Fait que le matin, c'est compliqué, mais le midi, c'est plus simple. Grosso modo, 60 grammes de thon, volaille, poisson ou bon. Une tasse de pois chiche et d'amami, on va chercher à peu près le 20 grammes de protéines nécessaires.
Dont on
là,
a besoin.
Dont d'accord. on a besoin. Ça dépend du
parce
poids corporel.
Que... C'est ça, mais c'est que c'est une chose à laquelle les gens ne pensent pas souvent. Mmh. Quand tu vois des gens qui essayent de perdre du poids ou qui font des régimes ou des trucs, puis là, ils sont ouais. comme, je suis pas été, ils m'ont pas mangé de bien. Ben oui, mais c'est parce que là, tu t'enlèves de la protéine. Les gens ont comme associé la protéine oui. avec quelque chose de néfaste, à moins que tu sois évidemment keto, parce que les kétos adorent les protéines, puis ils en mettent partout. Peut-être trop, je te vois lever les yeux au ciel. On rentrera oui. pas là-dedans, ma belle Isabelle, mais... Donc, la relation avec la protéine, il faut y réfléchir, puis il faut en être conscient. Elle est vraiment importante. Les protéines sont importantes pour nous.
Surtout en oui. vieillissant, puis on voit beaucoup dans des centres de personnes âgées, des RPA, on voit beaucoup les gens manger une petite soupe aux légumes, les personnes âgées. C'est tellement triste de voir ça parce que l'apport protéique est plus important que jamais à ce moment-là.
Bon, mais c'est à la fois des RPA?
J'ai analysé des menus oui. dans le temps pour le compte du journal, ça serait le temps souviens. De le refaire.
Oui.
Parce que le repas arrive pas chaud, hein. Fait que c'est pas que c'est pas bon. Il y a des nutritionnistes dans les hôpitaux, oui. dans des centres d'hébergement également. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour avoir une assiette équilibrée, mais le temps que ça se rende jusqu'aux patients, jusqu'aux clients, ben c'est froid. Puis c'est souvent des légumes surgelés parce que ça coûte moins cher. Fait que c'est sûr que c'est pas comme un bon repas maison. Non. Là.
Mais
c'est moins tentant.
Oui, c'est moins tentant. Mm-hmm. Puis si, en effet, les deux, mettons que tu as une entrée puis tu as un plat principal, le plat principal, si c'est de la viande puis c'est froid, tu vas avoir tendance à ne pas la manger. Si l'entrée, voilà. c'est une soupe, bon, à la rigueur, c'est froid, peut-être moins dérangeant. Donc, tu te oui. retrouves à manger beaucoup de légumes, c'est bien, mais pas de protéines. Donc là, c'est là que tu perds de la masse musculaire puis c'est là que tu tombes
oui.
et c'est là que tu te blesses puis c'est là que, bon, la déchéance commence. On va prendre mm-hmm. un petit 30 secondes, l'importance de la oui. vitamine D. Le lien entre la vitamine D et la masse musculaire, quel est-il, Isabelle?
On se rend de plus en plus compte qu'il y a un lien très fort entre les os et la masse musculaire. Donc, plus on a de masse osseuse, plus on a de masse musculaire. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Puis d'ailleurs, quand on fait de la sarcopénie, donc la perte de muscle, la fonte musculaire, la force de préhension qui est vraiment diminuée aussi, on est beaucoup plus à risque d'ostéoporose et de chute. Donc, c'est très corrélé. C'est pour ça que le calcium et la vitamine D sont hyper importants, tant pour les os que pour la masse musculaire. Et puis, il faut rencontrer les besoins en vitamine D. Puis encore ici, je recommande la supplémentation. Là.
Absolument. Bon, ben, t'es toujours de bons conseils. Merci mm-hmm. beaucoup et vive la masse musculaire. Merci, Isabelle.
Oui, les exercices, c'est important.
Oui, oui. Humpa, tout petit.
Très
doux.
Important.
C'est la chanson merci. De Willy Wonka, ça. OK, merci, bonsoir.
Bye.
Sophie Durocher.
Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Si vous nous écoutez depuis la semaine passée, ben on a comme lancé, Sophie et moi, un nouveau segment dans l'épisode, le segment Céline Dion, parce que bon, je suis fan, je l'aime comme c'est pas possible. Puis tu sais, des fois, on peut se poser la question, c'est quoi mon degré de séparation avec telle personne? Mais là, je me suis rendu compte qu'avec Sophie, je suis à un degré de séparation de Céline Dion, parce que Sophie la connaît très bien.
Et moi, zéro. Et moi, zéro.
Oui,
en
toi,
fait,
c'est direct.
Toi, t'es à deux et moi, je suis à un, parce que c'est ça, donc, pour raconter l'histoire, j'ai interviewé à 7 reprises Céline Dion
ouais.
pour le magazine 7 jours. Donc, on a décidé que pendant 7 jours à l'émission, j'allais te raconter des petites anecdotes. Et l'anecdote que je voulais te raconter aujourd'hui, ben en fait, peut-être que tu voulais faire l'introduction en parlant du magazine Vogue.
Ben non, mais en fait, c'est quand j'ai vu les images passer, oui. je me suis dit, on a une embelle là, pour parler de notre belle ben Céline oui. qui est à la une du magazine Vogue en France. Si vous nous écoutez via la chaîne télé de Cube, moi, son manteau, j'en prendrais une bouchée tellement
ben
que
oui,
ça a l'air bon.
C'est un gâteau de mariage.
Je sais! Alors,
je pense qu'elle est tout nue en dessous, par contre.
Penses-tu?
Quelle drôle d'idée de se mettre tout nu en dessous d'un manteau. En tout cas.
Ben écoute, c'est pour faire jaser, encore une fois. Et c'est titré Le grand retour de Céline. Donc, on sent qu'il se trame quelque chose à notre plus grand bonheur. Mais là, raconte-moi une autre de tes anecdotes.
Ben, c'est qu'en fait, je voulais faire un petit lien un petit peu détourné. C'est que dans cette entrevue avec le Vogue France, parce qu'elle ne fait pas juste des photos,
il y a aussi, bien sûr, une entrevue.
Et à un moment donné, elle dit qu'elle parle français et anglais à Nelson, Eddie et René Charles. Et ça m'a rappelé que, en exclusivité, elle avait confié au magazine 7 jours, à cause de ce lien privilégié qu'on avait avec elle, des photos d'elle enceinte. Donc, c'est des photos qui ont fait le tour du monde. C'était Céline enceinte, des jumeaux. Donc, on le voit ici. Donc, ça, c'était le premier truc exclusif. Et après, quand elle a accouché, les photos de Nelson et Eddie en primeur pour le 7 jours. Il y avait même eu un article dans le Journal de Montréal pour annoncer le fait que dans le 7 jours, il y avait des photos exclusives avec Nelson et Eddie. Puis là, ici, on voit le papa, l'heureux papa avec ses deux petits bébés, bref, et tout ça. Et donc, tout ça pour dire que si, à l'époque, j'avais su que Céline allait parler en français et en anglais avec ses deux enfants, peut-être que je l'aurais chicané en entrevue en lui disant, ben coudonc, vous êtes une fière québécoise, une fière francophone, Monsieur Angélil est un fier francophone, vous êtes une fière représentante de la francophonie.
Ouais.
Peut-être que j'y aurais fait en rigolant, bien sûr,
juste
en souriant.
Un petit clin d'œil.
Un petit clin d'œil en disant, coudonc. Et en plus, c'est particulier parce que on sait que Nelson s'appelle Nelson en hommage à Nelson Mandela, parce que quand elle avait fait sa tournée à travers le monde, Céline Dion avait rencontré M. Mandela quand elle était allée en Afrique du Sud.
Oui.
Elle a été extrêmement impressionnée parce qu'elle avait visité la prison,
la cellule,
où il a passé, une cellule en effet, où il a passé des années. Et, Eddie, c'est pour Eddie Marnay qui a composé des chansons que Céline a chantées. Alors, je me dis, à parler en anglais à Eddie Marnay qui a composé, qui a écrit des chansons qui sont connues dans toute la francophonie, c'est particulier.
Mais penses-tu que c'est parce qu'elle adapte son message? Parce que, tu sais, je lisais l'entrevue, puis tu sais, elle essaie d'être très, permets-moi l'expression, corporate, là. Tu sais, elle dit, je suis américaine et française et québécoise. Tu sais, on sent qu'elle veut plaire un peu à tout le monde.
Elle veut faire plaisir à tout le monde.
C'est ça. Fait que, est-ce qu'on peut?
Ça. Est-ce que je suis du genre à faire plaisir à tout le monde? Non.
T'as raison.
Alors, c'est sûr que,
Mais on dirait que je serais curieuse de savoir les réponses qu'elle donnerait à une entrevue. Un journaliste québécois, c'est ça.
Mais
je me demande si la réponse serait différente.
La prochaine fois qu'elle va donner une entrevue à un magazine ou un journal québécois, c'est sûr que les gens vont revenir là-dessus. Ça va être intéressant. En effet, très bon point, Stéphanie, de savoir ce qu'elle dit.
Et peut-être que notre entrevue exclusive au Québec sera avec Sophie Durocher. Je lance ça dans l'univers. Tout d'un coup que ça marcherait.
Peut-être.
Oh, que j'aimerais ça.
Peut-être, ce serait drôle.
Merci, Sophie, pour tes anecdotes. On reprend ça demain.
Oui.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Ma prochaine invitée s'appelle Mélanie Couture. Elle est chercheuse titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées à l'Université de Sherbrooke. Et moi, quand je vois dans la même phrase maltraitance et personnes aînées, ça me fait, évidemment, ça me donne des frissons dans le dos. Et vous allez en avoir des frissons dans le dos en entendant les résultats d'une étude que Mélanie Couture a complétée et qui est rendue publique aujourd'hui. Madame Couture, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, vous avez fait une étude sur des résidents et des proches aidants, des personnes qui vivent en résidence privée pour aînés. Et il y a des cas de maltraitance. Votre étude est alarmante. Peut-être commencer par nous dire pourquoi vous avez fait cette étude.
Bien, en fait, j'ai été approchée par le comité de défense des droits des résidents de l'agglomération de Longueuil qui avait vu des cas dans le milieu. Donc, ce comité-là, t'as des organismes communautaires, défense des droits, la police, la ville de Longueuil, et ils avaient vu plusieurs cas et ils voulaient qu'on essaye de mieux comprendre le phénomène. Donc, ils sont venus me voir vers 2018 pour qu'on entreprenne une étude pour essayer de décrire le phénomène. Et en tant que chercheur, la première chose que je fais, c'est que je vais voir à l'international, qu'est-ce qu'on a comme données scientifiques. Et à ma grande surprise, il y avait absolument rien sur la maltraitance en résidence privée pour aînés, alors qu'il y en a ailleurs. Et j'ai parlé à des collègues en France, en Belgique, ils m'ont dit oui, il y en a ici aussi, mais personne n'a pris la peine de décrire le phénomène. Donc, la première étape, quand il n'y a pas d'études, c'est d'essayer de comprendre, de décrire. C'est pour ça qu'on a des entrevues, on a 17 entrevues en profondeur. Donc, l'idée, c'était pas d'aller chercher plein de gens pour savoir c'est quoi, s'il y en a beaucoup, mais plutôt de décrire quand ça se passe comment. Parce qu'il y a plein d'études en centre d'hébergement et de soins de longue durée, en CHSLD. On a aussi des études sur la maltraitance entre les résidents, mais on n'avait aucune étude sur les propriétaires employés envers les résidents. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, donc d'aller chercher des témoignages pour essayer d'en comprendre plus. Et même si je travaille en maltraitance depuis plus d'une décennie, je peux vous dire que j'ai eu des surprises.
D'accord. Alors, allons-y comme ça. J'adore ça. Un invité qui me facilite la vie. Vous me parlez de surprises. Votre plus grande surprise, Madame Couture?
Le fait que c'est principalement organisationnel. Donc, faut faire attention. L'idée, c'est que nous autres, on pensait que c'est des employés, finalement, qui faisaient pas leur job, mais c'est pas ça qui se passe. C'est vraiment au niveau des gestionnaires quand qu'il y a des façons de faire qui sont établies et qui nuisent aux résidents, et surtout qui écoutent pas les résidents. C'est-à-dire, c'est ça la base, parce que c'est pas qu'ils vont faire des gestes toujours, mais c'est souvent qu'ils vont pas agir. Et ça va nuire. Comme par exemple, j'ai un exemple flagrant, c'est que...
Allez-y.
Et simple. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, dans les résidences, on rentre, il y a un tapis tout croche l'hiver, puis les résidents, plusieurs s'étaient plaints de dire, pouvez-vous l'enlever ou réparer le tapis parce qu'il y a quelqu'un qui va finir par tomber. Ils n'ont pas écouté. Finalement, quelqu'un est tombé et parti en ambulance. Et là, ah! Par magie, le tapis a disparu.
C'est très drôle.
Oui, ben.
Mais je dis c'est drôle parce que c'est pas drôle pour la personne à qui c'est arrivé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est drôle que dans toutes les sphères de l'activité humaine, on revient toujours à ça. Les gens ne sont pas écoutés, ça c'est très commun, et ça prend un drame avant que les autorités agissent. C'est pour ça que je riais.
Ben c'est un très bon résumé. Merci beaucoup. Puis c'est exactement ça. Et mais moi, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que quand les gens osent se plaindre. Certains gestionnaires vont faire des représailles.
OK, ça me fait capoter. Ça, ouais, madame, parce que j'ai lu donc les conclusions de votre rapport, je prenais des notes, et ça, j'avoue que je trouve ça absolument épouvantable, parce que des personnes aînées, déjà qu'on les écoute pas, mais qu'en plus, s'ils ont le malheur de se plaindre qu'il y ait des représailles, je trouve ça absolument épouvantable. Pouvez-vous me donner un exemple, mettons, du type de représailles exercées donc par les gestionnaires ou les préposés, quand quelqu'un se plaint en RPA?
Ben, souvent, avant même la représaille, ils vont lui dire « Ah, ben, tu sais, si une demande est trop grande, t'exagères. » Donc, on essaie de rendre la personne coupable pour plus qu'elle veuille porter plainte. Si elle met, tu sais, son bout ou elle fait des plaintes plus officielles, par exemple, ils peuvent ne plus vouloir qu'elle vienne dans le bureau du gestionnaire. Elle n'a plus le droit de venir parler au gestionnaire. Des fois, ils vont empêcher la personne, ils vont dire aux employés « Parle-lui pas à cette personne-là parce qu'elle fait juste se plaindre. » Le pire que j'ai vu, c'est que les gens ont entrepris une action collective et la personne qui avait entrepris l'action collective, le gestionnaire a fait que la personne ne pouvait plus payer son logement pour pouvoir les expulser pour défaut de paiement. Donc, on utilisait la loi.
Ça, c'est pervers, ça.
Oui, pervers. Ben, oui, et c'est ça qui... Qu'en maltraitance, habituellement, on parle de maltraitance, on va souvent avoir des gestes non intentionnels. Les gens voulaient pas causer du tort, faut les éduquer, puis là, ils comprennent, tout se règle. Dans ces cas-ci, c'est des gens qui savent qu'ils causent du tort. Donc, c'est intentionnel. Et moi, c'est ça qui m'a un peu horripilée. Puis le fait qu'il y a des représailles. Mais si je peux rassurer un peu, c'est que maintenant, il y a quand même, depuis avril 2022, dans la loi 6.3 pour contrer la maltraitance, toutes ces lois-là, il y a maintenant des sanctions envers non seulement les personnes, mais envers les organisations qui maltraitent. Et les RPA, c'est vraiment écrit RPA spécifiquement dans la loi. Mais aussi, il y a le côté représailles. Donc, il peut y avoir des sanctions pour les représailles. Et ils n'ont pas le droit de vous amener en cour si vous portez plainte de bonne foi.
D'accord. Okay?
Fait que c'est là. Par contre, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est vraiment les sanctions n'ont pas été appliquées encore. Fait que peut-être que la peur des sanctions a fait que les gens se sont replacés. C'est pas clair encore, mais au niveau du gouvernement, on n'est pas rendu encore aux sanctions, mais on s'entend que ça fait juste 2 ans, le temps de monter un dossier. Faut donner le temps puis de s'organiser autour. Et l'autre chose qu'il faut tenir compte, c'est que l'idée, là, c'est vraiment, faut porter plainte le plus possible. Et si vous n'êtes pas certain, vous voulez juste en parler puis savoir quoi faire, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné. Donc, 1-888-489-2287. J'en parle parce que ça fait 10 ans que ça existe et les gens la connaissent pas. Non, c'est des professionnels. Vous appelez, puis ça, on est chanceux, il y en a pas partout dans le monde des lignes comme ça. Vous appelez, c'est des professionnels de 8h à 8h, 7 jours sur 7. C'est dur de parler à des professionnels. Là, vous les avez, vous leur parlez, vous expliquez, ils vont vous diriger au bon endroit. Wow. Et mieux que ça, maintenant, le ministère a mandaté les centres d'accompagnement et d'aide aux plaintes, donc les CAP qu'on appelle, qu'il y a dans chacune des régions, pour soutenir les personnes qui veulent faire une plainte par rapport à une RPA, une résidence privée pour aînés. Parce que restez pas tout seul, parce que ce qu'on a vu dans l'étude, des fois, pas toujours, puis il y a des super bonnes résidences en passant, mais que si c'est organisationnel, vous avez besoin d'aide, vous pouvez pas faire ça tout seul, appelez à la ligne, vous allez pouvoir avoir les CAP pour vous aider. Mais il faut des plaintes aussi à un moment donné pour qu'on puisse savoir quelle résidence va pas bien qu'on puisse appliquer la loi aussi. Là.
Alors, juste parce qu'on va manquer de temps, des différents types de mauvais traitements dont on parle, fournir les mauvais médicaments, donc ça peut évidemment avoir des conséquences terribles. Servir de la nourriture non conforme aux restrictions alimentaires, si quelqu'un est allergique au gluten, si lui sert du gluten, bonne chance. Et occasionner de la douleur excessive durant les soins. Aucune de ces trois choses-là, on souhaite ça aux gens qu'on aime qui sont dans des RPA, donc des résidences pour aînés privées. Mélanie Couture, extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Puis j'invite tout le monde à aller consulter. Là, j'imagine qu'il y a des sites où on peut retrouver en ligne votre étude pour prendre la connaissance de tout ça, parce que sinon, on aurait passé une heure et demie à vous parler. Mais on a vu quand même les grandes lignes. Merci surtout d'avoir pris soin d'alerter la population à ces questions-là. Vous êtes chercheuse titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées à l'Université de Sherbrooke. Mélanie Couture, merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Karine Gagnon, chroniqueuse Journal de Montréal, Journal de Québec, en plus d'être ma patronne. Ben oui, quand j'envoie mes chroniques, je te les envoie. Donc, j'imagine que t'es ma collègue patronne. Écoute, je pense qu'on a toutes les deux hurlé quand on a vu l'excellent dossier dans le Journal de Montréal, Journal de Québec sur les jeunes et le français. Est-ce que tu t'es exclamé « Oh my God » quand t'as lu ça?
Non, mais je t'avoue qu'on a toutes les deux une préoccupation semblable pour la langue française. Et puis, c'est sûr que on voit à quel point on doit être aux aguets au Québec en situation de majorité. Alors, on peut s'imaginer que quand on est minoritaire, comme c'est le cas pour les francophones dans les provinces hors Québec, ben c'est loin, loin, loin d'être facile. Puis c'est ce que notre dossier reflétait là. Mais par contre, il n'y a pas juste dans les provinces anglophones. Ben non. Je vois que toi aussi, Sophie, tu as eu de la difficulté à Montréal.
Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière, j'étais à mon cours de yoga pilates et la prof donnait ses indications en français. Mais quand elle avait, c'est une anglophone, quand elle avait des trucs particuliers à nous dire, genre faites attention au cou, faites attention au bas du dos, elle disait tout en anglais, be careful with your lower back, be careful with your neck. Puis à un moment donné, je lui ai dit, je comprends pas pourquoi les indications sur les affaires dangereuses, vous les donnez en anglais seulement. Puis là, ça a été le foutoir pendant le cours. Et il y a une anglophone qui prenait des cours, elle aussi, qui a commencé à me dire, « Well, if you don't understand what she says, just learn English. We're in Canada, it's a bilingual country. » Puis tout ça. Fait que c'est assez particulier qu'on soit pas capable. Et surtout, c'est que quand on se plaint, on passe pour des emmerdeurs. Moi, c'est ça que je comprends pas. Karine, on a un gros, gros problème technique. On ne t'entend pas du tout. Tu sonnes comme une mutante. Oh. Comme s'il y avait eu une mutation génétique. Attends, reparle un petit peu. On va voir si ça s'est amélioré.
Est-ce que tu m'entends mieux?
Ah oui, tout d'un coup, il y a le miracle de la langue qui s'est produit. Alors, vas-y.
Miracle de la langue française. En lien avec ta chronique.
Non. Non, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est un complot Alors, reste à l'image, on va t'appeler puis on va pouvoir te parler au téléphone, on va te mettre en ligne. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, pendant qu'on rejoint Karine Gagnon du Journal de Québec, il y a ce dossier aussi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur le fait que, bon, parce qu'il y a eu tout un dossier sur le français quasiment inexistant ou en tout cas maltraité dans les provinces anglophones, dans les provinces anglaises, dans le reste du pays. Mais on apprend que ça se passe en anglais dans nos écoles aussi et que ici au Québec, quand il y a dans des écoles françaises, des francophones, des étudiants dont la langue maternelle est le français, qui se parlent entre eux ou qui parlent dans les corridors constamment en anglais et qui disent ben on voit pas c'est quoi le problème. C'est ça, hein, le reportage de Daphné Dion-Vient. Elle dit vraiment que les jeunes, quand on leur parle du français, ils comprennent pas, pourquoi on leur pose la question.
Effectivement, ils comprennent pas pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est important. Et ça, ben, je pense qu'on peut pas juste blâmer les jeunes. Je disais ça, puis je me disais, dans le fond, s'ils pensent comme ça, c'est qu'il y a un bout dans notre système d'éducation qui se fait pas. Il y a un bout dans notre réglementation, dans notre promotion de la langue qui se passe pas. Et c'est pour ça que ces jeunes-là ne voient pas ça comme un enjeu. Il y a quelque chose qui... Il y a un problème de communication quelque part, il y a un problème d'enseignement quelque part. Tu sais, quand c'est les profs qui sont obligés d'avertir les jeunes qui parlent en anglais dans les corridors, dans les classes, puis qui leur dire il faut parler français... c'est pas très normal, là, je trouve. Et puis, il devrait avoir cette sensibilité-là. Alors, on n'arrête pas de dire qu'il faut prendre des mesures supplémentaires. Le gouvernement avait lancé un plan d'action là, pour la survie. Je sais pas si tu te souviens, Sophie, Jean-François Roberge, le ministre, parlait de un réveil national. Là, puis, c'est la grosse affaire. Mais finalement, il se passe pas tant de choses que ça. Là.
Non. Il parlait de réveil national, mais je pense que tout le monde a appuyé sur « snooze ».
Oui, exact. À commencer par le gouvernement, là, il y a des actions qui doivent être prises. Et puis, c'est ça que je tentais de te dire tout à l'heure, oui. C'est qu'en lien avec ta chronique, l'Office québécois de la langue française a sorti des données aujourd'hui sur le fait que l'accueil en français à Montréal, entre autres, a beaucoup reculé. On est passé de 84% à 71% entre 2010 et 2023. Alors, c'est quand même beaucoup en très peu de temps. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que l'Office va aussi documenter ça pour avoir une tendance ailleurs qu'à Montréal. Parce qu'à date, on regardait plus du côté de la métropole. On sait aussi qu'il y a une problématique particulière de ce côté-là. Mais là, on va documenter pour l'ensemble du Québec. Alors, tu sais, c'est pas des inventions, là, puis c'est pas...
Non.
C'est contrairement à ce que les jeunes pensent, là, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de problème.
Non, parce que regarde, on connaît évidemment la situation qui a été quand même amplement commentée au Club Med de Charlevoix, où manifestement une grande quantité des employés ne parlent pas français. Mais moi, comme j'écris régulièrement là-dessus dans le journal, les gens m'écrivent, me disent à Vaudreuil, à Laval, c'est dans tous les coins du Québec où, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, entre autres, on n'est pas capable de se faire servir en français. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le texte de ce matin de nos collègues à propos de l'anglais dans les écoles. Les professeurs en tout cas, semblaient dire que ce phénomène-là de l'anglicisation, c'est... a vraiment empiré après le retour en classe, après la COVID. Et l'explication que moi, je me suis faite dans ma tête, c'est pendant la COVID ou l'enseignement à distance, ben, ils passaient leur temps, les jeunes, sur leur ordinateur. Qui dit ordinateur dit Netflix, Spotify et compagnie. Ben, on les a anglicisés pendant la COVID. Puis là, est-ce qu'on va pouvoir rattraper ça, Karine?
Bon, je pense que ça se rattrape, mais ça se rattrape par des mesures concrètes qui tardent à venir. Tu sais, je lisais les commentaires de Pascal Bérubé, député péquiste de Matane, qui disait ben un peu tout le monde dort présentement, tu sais, oui. Alors qu'on devait assister à un réveil national. Ben que fait le gouvernement? Tu sais, je voyais aussi Québec solidaire qui, en début d'année, réclamait des actions pour Montréal. On réclamait aussi que le plan d'action pour la survie de la langue soit présenté. Alors, tu sais, il va falloir, à un moment donné, passer en vitesse supérieure pour justement atteindre des objectifs et puis voir des effets dans les écoles, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Et c'est pas juste pendant la pandémie, ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire quelque chose, que les jeunes, chez les jeunes, la protection du français, l'importance de cet enjeu-là pour eux, c'est pas clair, qu'il faut agir. Donc, ça se fera pas en criant ciseaux, là. Ça va prendre beaucoup d'efforts. Et puis là, ben, ce qu'on voit, c'est que ça tarde à se mettre en place, malheureusement.
Ouais. Ah, ils sont ben préoccupés par la survie du beluga à tache mauve et à rayures orange, mais la survie du français. Ça va passer en deuxième. Merci beaucoup,
oui,
Karine.
J'aimerais pouvoir faire les deux, Sophie.
Mais j'aimerais qu'on fasse les deux. Moi, je les aime, les belugas avec des taches. Je me souviens plus de quelle couleur j'ai dit, là, que j'ai imaginé. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Sophie. À vous tous et à demain. Kid.